Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Dans ses mémoires d'une jeune fille rangée, Simone de Beauvoir se souvient d'une lecture déterminante qu'elle a pu faire durant son adolescence, Les quatre filles du Dr March. Un souvenir de lecture qui a peut-être insufflé les premiers élans d'écriture de la philosophe. Pour Flaubert, ce fut par exemple Don Quichotte, et pour Camus, il y a eu bien sûr Les frères Karamazov. Et vous alors, quel est le livre qui a changé votre vie ? Le 25 janvier prochain, c'est-à-dire ce samedi, l'Institut de France va célébrer la nuit de la lecture en compagnie de ses académiciens qui vont lire sous la coupole des passages de livres qui ont été pour eux décisifs. Et parmi eux, il y aura vous, Antoine Compagnon. Bonjour.
Bonjour, mais je n'ai pas encore décidé de mon choix pour samedi prochain, donc je ne sais pas encore ce que je lirai samedi prochain, à vrai dire. Mais ces derniers temps, il m'est arrivé de parler du Rouge et le Noir à différentes reprises, parce que dans mon dernier livre, j'évoque la lecture du Rouge et le Noir quand j'avais 14 ans, comme une lecture qui m'a profondément marqué. Alors, est-ce que c'est celle qui m'a le plus marqué ? Non, il y en a d'autres, bien sûr, qui m'ont marqué aussi beaucoup. Mais Le Rouge et le Noir reste un livre fétiche.
En tout cas, vous êtes membre de l'Académie française. Vous avez enseigné à l'Université de Columbia à New York. Vous êtes aussi professeur au Collège de France, spécialiste de l'œuvre de Marcel Proust. Marcel Proust, est-ce que c'est lui qui vous a donné le goût de la lecture ?
Moi, j'ai lu La recherche du temps perdu quand j'avais 17 ans, 17-18 ans. Bon, j'étais donc déjà un lecteur, je dirais pas maladif, ni maniaque, mais j'étais déjà un lecteur avide. Il est vrai que lorsque j'ai lu Combray, la première partie de Du côté de chez Swann, le début de La recherche du temps perdu, j'ai été immédiatement conquis. Il y a des gens qui, au contraire, ils abordent Proust, ils trouvent que c'est un obstacle, ils sont rebutés par les longues phrases. Non, moi, j'ai le souvenir d'entrer dans La recherche du temps perdu avec beaucoup, beaucoup de joie et de confort.
Je crois que c'est une de vos professeurs, Madame Moisy, qui vous a fait lire Proust pour la première fois.
Une page, mais ça, c'était un peu avant. J'avais lu, bon, c'était un professeur de français que j'avais en classe, bon, c'était aux États-Unis, mais en gros, c'était l'équivalent des classes de peut-être troisième seconde. Et en effet, avec elle, donc, il nous donnait, bon, j'étais dans une école américaine, mais elle nous donnait quelques cours complémentaires de français. C'est avec elle que j'ai lu des vers de Baudelaire pour la première fois,
aussi,
ou une page de Proust pour la première fois.
Alors, vous avez publié il y a quelques mois un ouvrage assez bref qui s'intitule « La littérature, ça paye », dans lequel vous donnez résolument envie de lire du Proust, mais pas seulement. Et dans ce livre, vous parlez avec un peu d'ironie dans les termes choisis, vous parlez des bienfaits, des bénéfices, entre guillemets, de la littérature, parce que pour vous, la littérature, c'est le meilleur des investissements à faire, mieux qu'un achat immobilier.
Oui, je crois que c'est ce qu'il faut dire aux jeunes gens aujourd'hui, aux jeunes gens et aux jeunes filles. Moi, j'inclus les jeunes filles dans les jeunes gens. Parce que, bon, on sait bien qu'aujourd'hui, il est un peu plus difficile de lire. À l'époque où j'étais jeune, il n'y avait rien d'autre à faire. Donc, on lisait forcément beaucoup, sinon, on s'ennuyait. Donc, on lisait des gros romans russes, des gros romans français, Les Misérables, Crime et Châtiment, Guerre et Paix. On n'avait que ça à faire. Bon, aujourd'hui, les jeunes gens, ils sont très sollicités par plein d'autres choses. Donc, il me semble qu'il importe de leur dire que la lecture, bien entendu, c'est un plaisir. Il y a une gratuité de la lecture. C'est ce que l'on appelle l'oisiveté. Mais n'oublions pas que l'oisiveté, c'est l'osium de l'Antiquité. C'est aussi l'étude.
Fécond.
C'est le loisir fécond. C'est le loisir studieux. Alors, la lecture, je dis, oui, ça rapporte. Mais évidemment, on ne sait jamais quand ça rapportera. Aujourd'hui, on cherche des investissements à court terme. La lecture, c'est un investissement à très long terme. C'est la lecture qui permet de rebondir un jour, dans 20 ans, dans 10 ans, on ne sait pas quand, mais c'est la lecture qui donne l'expérience de la vie, introduit à la vie.
C'est pour ça que vous utilisez, parce que je m'arrête un instant sur ce titre, La littérature, ça paye. C'est un titre un peu provocant, très économique, et dans votre livre, vous parlez de rendement, d'utilité. C'était pour vous une manière de vous adresser à des personnes qui douteraient des valeurs de la littérature ?
Oui, bon, le titre est un peu vulgaire, on me l'a dit. On m'a aussi dit que j'étais le seul à pouvoir se permettre un titre un peu vulgaire, ou un peu provocateur, comme vous l'avez dit. Oui, parce que je voulais frapper. Frapper, et je pense que ça a frappé. Bon, j'ai entendu beaucoup d'amis qui ont dit « Ah, mais j'ai fait lire le livre à mes enfants », et ils ont été convaincus. Ça partait aussi d'un constat que j'évoque, ils ne savent pas très bien à quoi sert le cours de français. Ils servent à quoi sert le cours de maths, la plupart des cours, même le cours d'anglais, mais le cours de français, ils ne savent pas très bien à quoi ça sert. Alors, leur dire, le cours de français, c'est rentable, c'est rentable. Pas seulement, c'est pas pour vous aider à faire un curriculum vitae ou une lettre de présentation. Et c'est utile parce que c'est avec ça que vous allez vivre mieux.
Et ça peut vous aider à mieux faire votre métier. Parce que Proust guide votre réflexion tout au long de ce livre. On retrouve bien sûr Montaigne, Baudelaire, mais c'est vraiment l'auteur de la recherche qui reste le fil conducteur du livre. Et alors, selon Proust, ou le narrateur, on ne sait jamais, eh bien, il fait le constat que nous sommes meilleurs dans ce qu'on fait, c'est-à-dire dans nos métiers, si on lit, si on a une fibre littéraire. Alors, Proust a écrit la recherche en 1913. Est-ce que cette théorie est toujours valable en 2025 ?
Je pense qu'elle est toujours valable. Proust, évidemment, le dit avec un peu d'ironie. Il dit, dans quelque métier que ce soit, avocat, médecin, ingénieur, administrateur, les autres se rendent compte, « Ah, celui-là, il a réussi, c'est un lettré. » Celui-là, celle-là, disons aujourd'hui, ils ont réussi, ce sont des lettrés. Est-ce que ça vaut toujours ? Proust le dit avec un peu d'ironie, hein, il n'y a pas de doute. Et il faut rappeler que dans La recherche du temps perdu, le docteur Cottard, qui est le meilleur médecin, celui qui a le meilleur diagnostic, eh ben, il n'a pas lu Nietzsche. Les internes préfèrent les professeurs qui ont lu Nietzsche. Mais bon, lui, c'est une buse. Mais il n'empêche que Proust adhère à cette idée. C'est une vieille idée qui vient de l'Antiquité, que la culture cultura animi, ce que j'appelle la lettrure dans ce livre, eh bien, ça sert à être meilleur dans quelque activité que ce soit, activité privée, mais aussi activité professionnelle. Je crois que c'est indubitable. Moi, j'ai souvent enseigné la littérature a des, comme on dit, non-spécialistes, hein, en France et aux États-Unis. Et il m'est souvent arrivé de constater que parmi les meilleurs, il y avait ceux qui n'étaient pas les spécialistes.
Vous avez parlé de lettrure à l'instant. Vous ressuscitez ce joli mot oublié. Comment vous le définissez, ce terme de lettrure ?
Bon, c'est un mot que j'emprunte à Saint-Louis dans une lettre à sa fille, donc c'est un mot français, pour désigner, eh bien, au fond, ce que les lettres vous donnent comme qualité, comme capacité, aujourd'hui on dirait comme compétence, hein. Je crois que d'avoir lu, d'avoir eu des lettres, cela donne une compétence qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et cette compétence, eh bien, on pourrait l'appeler avec un terme un peu plus banal, culture générale. Bon, culture générale, c'est un peu ennuyeux comme
littératie.
Expression. Oui, alors bon, en anglais, on a cultural literacy, donc c'est un peu le mot literacy en anglais. Pour moi, la lettrure, c'est la compétence qu'a celui ou celle qui a beaucoup lu.
Dans ce livre, vous abordez aussi une question longuement débattue, jamais tranchée. Est-ce qu'il existe des livres plus utiles que d'autres ? Alors, pour votre camarade Philippe Dian, par exemple, Proust n'est pas un auteur utile, ni pratique. Il dit qu'il n'aide pas non plus à mieux vivre. Cet auteur provoquerait juste, entre guillemets, une émotion esthétique. Est-ce que le spécialiste de Proust que vous êtes peut accepter ça ?
Je crois que Proust a servi à beaucoup de gens. Que Proust a été utile à beaucoup de gens. Par exemple, tout le monde est amoureux un jour ou l'autre dans sa vie, tout le monde est jaloux un jour ou l'autre dans sa vie. Il me semble que si on a lu Un amour de Swann, si on a lu La prisonnière, on est mieux équipé pour rebondir dans les vicissitudes de l'amour et de la vie en général. Non, je pense que Proust a servi à beaucoup de gens. Moi, je pense que Proust m'a fait beaucoup de bien. Proust parle de l'amour, Proust parle de la mort, Proust parle du deuil. Nous avons tous connu des deuils et nous avons tous rencontré la mort à différents moments. Proust est un secours dans ces moments-là.
Il aide à mieux supporter. Il y a le style de Proust, inimitable. Les œuvres littéraires ont une influence sur la manière aussi de styliser nos existences. C'est-à-dire, c'est aussi par les récits qu'on construit sa propre existence.
Oui, alors là, je reprends une position qui est un peu celle de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur qui a beaucoup écrit sur le récit et sur l'importance. Mais alors là aussi, je n'y adhère pas absolument. Paul Ricoeur nous dit que pour vivre convenablement, moralement, c'est-à-dire bien, eh bien, il faut toujours avoir enfin, un récit de sa vie, du point où on en est. Alors oui, c'est très bien, mais moi, je ne vais pas aller jusqu'au bout de ça, parce que dans un récit, il y a l'idée de cohérence, hein, de linéarité. Et ce qu'il y a de plus beau en littérature, c'est quand ce n'est pas cohérent. C'est quand il y a des retournements. Dans l'œuvre de Proust, les choses ne sont jamais telles qu'elles se présentent. Il y a toujours des retournements, des péripéties. Donc oui, disons, c'est bien d'avoir à tout moment une sorte de récit pour savoir où on en est, tout simplement, du chemin que l'on a parcouru. Mais ne privilégions pas trop la cohérence de ce récit. Les plus beaux récits sont les récits incohérents.
Comme dans les vies.
Comme dans la vie et comme dans la littérature. Moi, je n'aime pas trop la littérature linéaire.
Je voulais vous parler du passe-culture. Alors aujourd'hui, son existence est contestée. Le dispositif propose aux collégiens lycéens des offres culturelles, des livres, des concerts, des conférences. En juin dernier, l'organisme a publié une étude qui s'intéressait aux usages des 15-20 ans. Et bonne nouvelle, la lecture est le premier pôle de dépenses de ces jeunes. Le manga est la catégorie littéraire la plus populaire, suivie de près par une autre catégorie, la dark romance. Alors, Jamais plus, c'est le titre du roman le plus commandé sur le Pass Culture en 2024.
Ah, oui.
C'est un roman donc, de dark romance. Alors, on voit bien sûr se développer des nouvelles catégories littéraires, comme celle qu'on vient de citer. Il y a aussi la consolidation de nouveaux formats qui existent déjà depuis longtemps. Je pense à la bande dessinée. Aujourd'hui, on voit de la BD partout, la recherche de Proust qui est adaptée en BD. On explique la guerre israélo-palestinienne en BD aussi, la crise des subprimes, la philosophie. Selon vous, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que la BD permettrait de toucher un public qui, au premier abord, ne serait pas allé vers les premiers auteurs, ou alors c'est plutôt un nivellement par le bas?
Écoutez, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Moi, je suis d'un âge où la BD, c'était Tintin, donc c'est très vieux jeu. C'est très vieux jeu. Bon, quand j'étais enfant, j'adorais Tintin. J'ai beaucoup appris. J'ai adoré. J'ai su par cœur tous les albums de Tintin. Alors maintenant, la fantasy, la dark romance. Oui, l'an dernier, je crois que j'en parle dans le livre, dans ce livre, j'étais allé au Salon du Livre de Paris au printemps donc 2024 et j'avais été sidéré de voir que les queues les plus longues, mais dans une proportion considérable, c'était au stand de la romance. Et c'était des queues de gens jeunes, surtout des jeunes filles d'ailleurs, hein. C'est surtout des jeunes filles qui lisent, d'ailleurs c'est les filles lisent plus que les garçons. Mais en tout cas, là j'étais tout à fait sidéré, alors je vous avoue que je n'ai jamais lu de dark romance, je devrais, l'autre jour je m'arrêtais à une station d'autoroute là pour prendre de l'essence, et je voyais que dans la librairie de la station d'autoroute, il n'y avait que ça, mais des piles. Donc, c'est ce que les gens achètent pour lire en conduisant en voiture. Et oui, alors, je dirais, de toute façon, c'est bien de lire. Donc, je me console comme ça. C'est bon pour les neurones. Si on lit, on est atteint par Alzheimer un peu plus tard que les autres. Donc, de toute façon, c'est bien de lire. Mais ce qui est bien aussi pour le faire travailler les neurones, c'est des lectures qui ne soient pas trop faciles. N'oublions pas que ce qui est bien dans la lecture, c'est que ça fait imaginer, ça fait penser. Une bonne lecture, c'est une lecture dans laquelle on s'arrête tout le temps, dont le rythme change tout le temps. Si on lit un livre sans jamais retourner en arrière, avec toujours le même rythme de lecture de la première à la dernière page, ben, je suis désolé, c'est pas vraiment la lecture. La lecture, c'est du va-et-vient. Et c'est des rythmes qui sont très variables selon les pages. Voilà, c'est ça la beauté de la lecture. Hein. C'est d'être maître du temps. Alors que quand je vais au cinéma, je suis pas maître du temps. Bon, quand je regarde un film chez moi, je peux le couper, mais enfin, c'est pas la même chose. Voilà, on ne lit pas uniquement dans un sens. Pour moi, c'est ça qui fait la beauté de la lecture et véritablement sa profondeur.
Il y a la lecture, il y a l'écoute audio. Le livre audio, il constitue aujourd'hui près de 20% des ventes de livres. Vous avez vous-même, pendant le confinement, succombé à la voix d'André Dussolier, qui lit La Recherche, du temps perdu. Mais vous semblez quand même avoir un avis mitigé.
Oui. Alors, bon, je raconte que pendant le confinement du Covid, j'écoutais Dussolier en faisant de la gymnastique. Mais le plaisir que j'ai à écouter Proust, c'est que je le connais déjà à peu près par cœur. Donc, j'ai un très, très grand plaisir à l'écouter. Mais j'ai aussi essayé d'écouter des livres que je ne connais pas. Eh bien voilà, ce que je disais à l'instant, je ne suis plus maître du rythme, je ne suis plus maître du temps. Et je dois dire que j'ai écouté des livres pour voir, puisque je sais que maintenant c'est très à la mode, que c'est en croissance très très rapide, que ça se développe beaucoup. Une lecture, c'est une interprétation. Le lecteur est un acteur. Il m'est arrivé d'arrêter tout de suite parce que c'était pas la voix que je voulais, c'était pas l'action que je voulais dans cette lecture. Donc, je ne prends pas possession d'un livre de la même façon s'il y a un intermédiaire. Alors, ça peut être très agréable. Bon, on a toujours fait des lectures orales, hein, des lectures en famille. On a lu des livres en famille. Puis, quand le livre était coûteux, la lecture, traditionnellement, était une activité sociale. On lisait peu, seul, avant que le livre devienne bon marché. Mais c'est pas la même chose. La lecture aujourd'hui, c'est pas une lecture sociale, c'est une lecture solitaire, mais avec des écouteurs. Et puis alors, l'autre grief que j'ai contre cette lecture audio, c'est que c'est essentiellement une lecture de ce qu'on appelle le multitâche. On écoute un livre en faisant autre chose, en conduisant, en étant dans les transports en commun, en faisant la cuisine, en faisant du jogging. C'est pas une lecture qui est aussi monopolistique. Une lecture doit être possessive. Moi, je suis resté, de ce point de vue, comme un adolescent, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à arrêter de lire un livre. Quand je prends un livre, j'ai pas envie de... Vous savez, le livre de chevet, je lis 10 pages tous les soirs. Moi, j'ai jamais eu beaucoup de plaisir à lire un livre par dose de 10 pages tous les soirs. Parce que, à ce moment-là, je recommence à lire les 10 premières pages tous les soirs. Mais quand je suis dans un livre, il me possède jusqu'au bout. Alors, c'est vrai que je ralentis avant d'arriver à la fin, parce que je dis ça, à la fin, on n'a pas envie que ça se finisse. Quand on lit un livre, on n'a pas envie que ça s'arrête, donc on ralentit à la fin. Mais je suis resté comme ça. C'est peut-être une maladie, hein, de ne pas pouvoir lire les livres par tranche. Bon, il y avait la mode des feuilletons, 19e siècle. On avait une tranche tous les jours. Mais là aussi, on était possédé. On attendait le quotidien du lendemain pour dévorer la première page où il y avait le feuilleton.
Vous êtes à contre-courant de l'accélération ambiante, parce que maintenant, on peut écouter les livres audio en x1,2, x1,5, même 1,8 pour les plus téméraires. Vous vous dites, avec l'âge, je lis les livres comme les vaches rubines. Vous faites un éloge de la lenteur.
Oui, ça c'est Nietzsche qui disait que la lecture, c'était de la ruminatio. Hein, donc, il faut lire les livres comme les vaches ruminent. Et oui, alors là, c'est quelque chose qu'on apprend avec l'âge. Je disais tout à l'heure que je lisais toujours comme un adolescent, c'est-à-dire que j'aime bien lire les livres, quand je le prends, j'aime bien aller jusqu'au bout. Donc ça me prend, mettons, toute une journée quand je prends un livre, j'arrive pas à faire autre chose. Quand j'étais adolescent, je lisais très vite. Les adolescents lisent très vite, parce qu'ils veulent arriver au bout des livres. Donc on lit en une journée, on lit Guerre et Paix. Mais est-ce qu'on a vraiment lu Guerre et Paix quand on l'a lu en une journée? Pas tout à fait. Donc quand on le relit quelques années plus tard, on se dit « Ah, mais j'avais pas vu tout ça, j'avais rien vu, quoi, j'avais rien vu ». Donc oui, on apprend à lire de plus en plus lentement.
Antoine Compagnon, on a passé un moment à discuter de tous les bienfaits, de l'importance de la lecture. Il n'empêche qu'aujourd'hui, 15% des Français ne lisent pas. C'est le dernier chiffre du baromètre du CNL, le Centre National du Livre. Est-ce qu'on peut tout de même avoir une vie bonne sans lire? Est-ce que la vie est nécessairement moins dense que les autres si on ne lit pas?
Écoutez, je le crois. Je crois qu'il y a des substituts. Les séries à la télévision. Parce que, je le dis aussi, l'homme et la femme sont des animaux qui ont besoin de récits. On ne vit pas sans récits. Et ça n'a qu'à regarder les enfants pour voir comme ils ont besoin de récits. Donc, nos contemporains, oui, trouvent beaucoup de récits dans les séries télévisées, d'où leur succès. C'est ça les feuilletons du 19e siècle, comme on lisait Alexandre Dumas. Alors, on a besoin de récits. Mais, comme je le disais, il y a un moment, je ne crois pas que la série ou le film nous donne la même activité mentale que la lecture. Je disais, la lecture, c'est l'imagination, la lecture, c'est le rythme, c'est la maîtrise du temps, c'est la méditation. Et je crois que c'est la lecture qui a formé l'homme, l'être humain moderne, depuis Gutenberg, depuis que le livre s'est répandu, puis surtout depuis le 19e siècle, où il est devenu meilleur marché, c'est ça qui nous a formés, presque tous. Donc je crois qu'on peut maintenir qu'il y a un bénéfice tout à fait propre au livre. Et je pense, je suis assez confiant dans l'avenir du livre, de ce point de vue.
Cette question de la lecture a beaucoup intéressé votre consoeur Daniel Salnave, qui a monté l'association Silence, on lit, qui propose aux écoles de mettre en place des quarts d'heure de lecture quotidienne pendant les heures de cours. Et les résultats ont montré beaucoup d'effets positifs, comme vous dites, meilleure concentration des élèves, l'adoption aussi de meilleurs réflexes. La lecture a fait ses preuves. On a beaucoup parlé des lecteurs, pas vraiment des écrivains et des poètes, et des bénéfices qu'ils peuvent eux aussi retirer de la littérature. Baudelaire, par exemple, il n'a jamais pu voir le succès de ses poèmes. Il est mort dans la misère, dans la maladie. Ses poèmes vont connaître le succès 50 ans après sa mort. Mais il avait, vous dites, compris tout le potentiel de se donner à la littérature. L'écriture est un risque à prendre pour les écrivains en devenir. Et vous, vous l'avez pris ce risque, Antoine Compagnon, parce que vous êtes un scientifique qui a bifurqué.
J'ai pris des risques, oui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas avoir des récits trop cohérents et trop linéaires. La vie est faite d'accidents. Et bien justement, c'est la lecture qui permet de se débrouiller en cas d'accident ou en cas de péripétie. Oui, alors le titre du livre, c'est « La littérature, ça paye », mais en effet, je dis « ça paye pour les lecteurs ». Ça paye souvent beaucoup moins, ou presque toujours beaucoup moins pour les écrivains. Je prends le cas de Baudelaire. Mais vous disiez, oui, est-ce que les écrivains, c'est différent? Non, pour moi, les écrivains, ce sont des lecteurs. Un écrivain, c'est un lecteur. Comme je dis, un professeur, c'est quelqu'un qui n'a jamais su cesser d'être étudiant. Un écrivain, c'est quelqu'un qui n'a jamais été capable de cesser d'être un lecteur. J'espère, parce que peut-être qu'aujourd'hui, il y a des écrivains qui n'ont pas le temps de lire, puisque tout le monde a moins de temps de lire. Mais tout de même, je pense qu'un écrivain, c'est essentiellement un lecteur.
Alors, il n'y a pas que les écrivains, vous mettez en lumière une discipline que j'ignorais totalement, qui existe assez peu en France, mais qui prend de l'ampleur aux États-Unis notamment, la médecine narrative. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça recouvre ?
La médecine narrative, j'y ai participé à l'Université Columbia, à New York, où il y a des diplômes de médecine narrative. C'est tout simplement le constat que la médecine est devenue de plus en plus technique. C'est ce qu'on appelle en anglais du « problem solving ». On a un problème, on trouve la solution. Mais malheureusement, entre le problème et la solution, il est nécessaire d'établir une certaine dialectique. Et cette dialectique, c'est quoi ? Ben, c'est le récit. Il faut qu'entre le malade et la maladie, entre le malade et le médecin, entre le malade et les personnels soignants, il est indispensable qu'il y ait du récit pour établir un diagnostic, pour proposer une prescription et pour guérir. À toutes les étapes de la médecine, le récit est indispensable. Et comme la médecine, je disais, est devenue de plus en plus scientifique, ce qui est très bien, eh bien, elle a besoin d'introduire de nouveau cette dimension du récit. Bon, quand j'étais tout petit, que j'allais chez le médecin, c'était un médecin qui avait encore une bibliothèque derrière son bureau où il y avait toute la Pléiade. J'ai vu toute la Pléiade chez mon médecin, quand j'étais enfant, à Paris. Mais c'est fini, ça. Les médecins n'ont plus la Pléiade dans leur bureau quand on va en consultation. Ben, on s'est aperçu qu'en conséquence, il y avait un déficit. Ce déficit devait être comblé. Et donc, dans les facultés de médecine, mais ça se fait aussi en France, il y a des séminaires de lecture. Donc, on lit des livres ensemble, et on lit notamment Proust, parce que, bon, aux États-Unis, là où je participais à ce programme de médecine narrative, il y avait un certain canon, corpus de littérature qu'on lisait avec les médecins, depuis La Montagne Magique, en passant par Proust, enfin, beaucoup d'autres, quoi.
On revient toujours à Proust. J'ai aussi appris que, lorsque vous êtes lancé dans la rédaction de votre discours d'installation d'académicien sous la coupole, vous vous êtes contraint à ne jamais utiliser une seule fois le mot « littérature » dans votre discours. Pour un membre de l'Académie française, c'est peu banal et on se doute de que la contrainte n'a pas été facile. Pourquoi ? C'était un exercice de créativité
Écoutez, dans mon discours de... Ça ne s'appelle pas discours de réception. Leçon inaugurale au Collège de France, ouais. Ça avait pour titre, si mes souvenirs sont bons, la littérature, pourquoi faire, quelque chose comme ça. Donc, c'était sur la littérature. Je voulais absolument faire quelque chose de complètement différent. Donc, je m'étais dit, c'est bien de me donner un défi. Et de ne pas employer ce mot, qui était un peu une facilité. Mais vous avez vu, ensuite, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La littérature, ça paye », donc je suis aussi capable d'employer le mot. Mais au fond, c'est un gros mot, littérature. On ne sait pas très bien ce que c'est. Moi, je dis la littérature, pour chacun d'entre nous, c'est ce qu'il lit, qu'il appelle littérature. Donc, je voulais pas trop charger ce mot, surtout dans un lieu comme la coupole, l'Académie française. Il y a un peu trop de sacré, un peu trop de gros mots, quoi. Donc, évitons ce gros mot. Non, j'ai pas eu de difficulté. J'avais décidé de ne pas l'employer, donc je l'ai pas employé.
Quel livre trouve-t-on dans la bibliothèque idéale d'Antoine Compagnon ?
On a parlé de Stendhal, on a parlé de... Ben, écoutez, les auteurs sur lesquels j'ai travaillé le plus, que j'ai enseigné dans toute ma vie de professeur, c'est Montaigne, c'est Baudelaire, c'est Proust, c'est Racine. Le siècle que je connais sans doute le moins, c'est le XVIIIe siècle. J'ai rarement enseigné le XVIIIe siècle. J'ai lu, mais je n'ai pas beaucoup enseigné. Bon, et puis il y a des auteurs comme Kafka, que j'ai adoré. Il y a des auteurs de la modernité, du second XXe siècle, qui m'ont beaucoup marqué, comme Beckett, que je peux citer. J'ai beaucoup aimé Marguerite Duras. Marguerite Duras est un auteur qui, à mes yeux, c'est peut-être la dernière, qui a véritablement laissé une grande trace dans la langue française. Voilà. Bon, ça en fait déjà quelques-uns.
Bien, rendez-vous le 25 janvier pour découvrir le passage que vous aurez choisi. Je crois qu'il est toujours possible de s'inscrire pour participer à cette nuit de la lecture. Donc ce samedi à l'Institut, rendez-vous sur le site de l'Institut de France. On a mis tous les liens sur la page de l'émission. Merci beaucoup Antoine Compagnon.
Merci.
Les podcasts de l'Institut de France.